Il est 5h30 à Paris et à Johannesburg, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupénouat.
Et vous êtes sur RFI Radio France Internationale, l'actualité africaine, une demi-heure ensemble sur la radio du monde. Le journal en Afrique du Sud d'abord, prison à vie contre une femme reconnue coupable d'avoir vendu sa fille de 6 ans. À qui ? Pourquoi faire ? L'enquête n'a pas permis de le déterminer, la jeune fille n'a jamais été retrouvée. L'hiver tombe sans prévenir sur les hauts plateaux de Madagascar et sur la capitale en premier lieu. Reportage dans les rues d'Antananarive avec ses familles démunies face au froid mordant. La Banque africaine de développement passe sous pavillon mauritanien. Sidi Oulta, élu hier à la tête de la BAD, il remporte largement le troisième tour du scrutin. Le groupe État islamique qui multiplie les actions sanglantes dans le Cabo Delgado, province du nord du Mozambique, une vingtaine de soldats tués en quelques jours et une nouvelle crise de déplacés internes. Nous sommes en République démocratique du Congo, bien sûr. Joseph Kabila reçoit des confessions religieuses dans sa résidence de Goma. Des ONG s'inquiètent de la multiplication d'arrestations dans les couches supérieures de l'armée. La justice sud-africaine prononce donc la réclusion à perpétuité à l'issue d'un procès qui a profondément marqué l'opinion. Kelly Smith a été reconnu coupable de traite d'êtres humains et d'enlèvement après avoir vendu sa fille de 6 ans. Les faits remontent à l'année dernière, mais la jeune enfant n'a jamais été retrouvée. Il semble que sa mère se soit séparée d'elle contre 20 000 rands, soit un peu moins de 1 000 euros. Ironie cruelle du calendrier, le verdict a été rendu le premier jour de la semaine de la protection de l'enfance à travers le pays. Valentin Hugues, un système aujourd'hui complètement à bout de souffle.
La protection des enfants est la responsabilité de tous, déclare le parquet sud-africain une fois le verdict prononcé. Mais la perpétuité ne ramènera pas ma petite fille, disparue depuis plus d'un an, martèle la grand-mère de Jocelyn Smith. Pour beaucoup, cette affaire illustre surtout un système qui échoue à protéger ses enfants. Même si certaines lois prometteuses de protection de l'enfance ont accompagné l'avènement de la démocratie il y a plus de 30 ans, les services de protection sont surchargés, souvent sous-financés, sans oublier le manque de suivi des parents en matière de santé mentale. Résultat, les chiffres sont alarmants. 3 meurtres d'enfants chaque jour et une disparition toutes les 5 heures. Chaque procès réveille alors ce besoin urgent de réformer l'aide à l'enfance dans le pays. La Commission des droits humains d'Afrique du Sud demande par exemple une meilleure application des peines, la mise en place plus sérieuse d'un registre des délinquants sexuels pour les empêcher de travailler au contact des plus jeunes et une prise de conscience de l'ensemble de la société pour briser le cycle de la violence et mettre fin à ce fléau. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
La situation sanitaire continue de se dégrader à Khartoum. 70 personnes au moins sont mortes du choléra en 2 jours, selon les autorités de santé soudanaises. L'épidémie se propage à toute vitesse dans une ville ravagée par 2 années de guerre. Près de 2000 nouveaux cas ont été enregistrés en 48 heures. Les Nations Unies ont bien lancé une campagne de vaccination dans le sud de la capitale, mais elles craignent que près 1 million d'enfants ne contractent le virus. On en vient à la situation sociale maintenant, à Madagascar, où la capitale a vu brusquement revenir l'hiver austral. Sans transition avec les semaines précédentes, le mercure est en train de chuter brusquement sur Antananarive. Il fait à peine 13 degrés en ce moment, et pour les populations à la rue, les mois qui viennent vont être encore plus que les autres, ceux de la débrouille et du système D. Sarah Teto est allée tendre son micro à ses familles qui tentent de s'organiser face à la saison froide.
Il est 18h, la nuit est tombée sur la capitale et avec elle le froid et le vent sont arrivés. La température a chuté de 21 à 10 degrés en quelques heures.
Rive, tu peux demander aux enfants d'aller à la benne trouver du charbon ?
Ok, j'y vais.
C'est là et son mari sont ce qu'on appelle les propriétaires d'une benne à ordures. En clair, ils travaillent dans la benne à la recherche de déchets revendables et de nourriture encore bonne à consommer. Ils se sont construits leur abri de fortune à 5 mètres du bac qui leur assure leur survie.
Il fait froid cet hiver. La nuit, on est obligé de se mettre dans des sacs poubelles et de mettre le drap par-dessus pour se protéger du froid. « Maman, j'ai encore froid », se plaignent les enfants. « Mais toi, tu ne peux rien faire que les écouter parce que tu n'as rien d'autre à leur proposer. »
Son rire, c'est pour mieux retenir les larmes qui embuent ses yeux. Son corps et celui de son mari portent les stigmates d'une vie de débrouille et de résistance passée dans la rue. Pourtant, confié le couple, ils ne regrettent en rien leur vie d'avant lorsqu'ils vivaient dans l'un des 2 tunnels de la ville.
On peut dire qu'on vit mieux ici que dans le tunnel d'Obanidia, parce que là-bas, on n'avait que le ciel comme couverture et même pas de sac pour nous recouvrir. Désormais, même si on dort sous un toit en plastique, on a un peu plus d'intimité et on n'a plus à subir le regard des passants.
La capitale ne compte plus que 2 centres d'hébergement d'urgence pour les familles. Mais l'insalubrité et l'insécurité qui y règnent ôtent souvent toute envie de venir s'y réfugier. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
La météo dévastatrice, cette fois dans le centre-nord du Nigeria. Les pluies diluviennes qui ont touché avant-hier soir la ville de Mokwa causent la mort d'au moins 25 personnes. 10 autres sont toujours portées disparues selon les services de secours. Des dizaines de maisons ont aussi été emportées par la montée des eaux. Le Nigeria et Amnesty International qui dressent un tableau macabre. 10 000 personnes sont mortes ces deux dernières années dans les violences qui agitent le centre du pays. Les états de Benue et du Plateau sont ceux qui concentrent l'écrasante majorité de ces attaques armées. On y revient dans le journal de 6h30, heure de Lagos. La Banque africaine de développement reste donc dans le giron ouest-africain. Le mauritanien Sidi Ould Tah a été élu hier à la tête de la BAD. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina. Il a remporté le troisième tour du scrutin avec 76% des voix face au Zambien Samuel Mudzele Meimbo. Le nouveau dirigeant de la BAD est un polyglotte qui connaît très bien les arcanes de la finance continentale. Il vient de passer 10 ans à la tête de la Banque arabe de développement économique en Afrique. Sidi Ould Tah, 60 ans, qui connaît aussi sur le bout des doigts les spécificités des économies africaines. Invité de Echo d'ici, Echo d'ailleurs, il y a 3 semaines, il évoquait déjà l'un de ses chantiers prioritaires en cas de victoire.
Les micro, petites et moyennes entreprises représentent aujourd'hui plus de 90% des tissus économiques en Afrique. Et pour la plupart, elles sont dans le secteur informel. Et même celles qui sont dans le secteur informel n'ont pas accès au financement. Il n'y a que 20% des SMI formels qui ont accès au financement. Mon ambition, c'est de créer une agence africaine de garantie. Cette agence va avoir un double rôle. D'abord, elle va aider les petites et moyennes entreprises à bénéficier des financements sans pour autant avoir à présenter des sûretés réelles ou des cautions aux banques.
Parce que c'est une vraie difficulté.
C'est souvent un grand frein aujourd'hui pour le financement des petites et moyennes entreprises.
Souvent, les banques sont trop frileuses.
On pourrait travailler avec l'intelligence artificielle qui donne aujourd'hui des opportunités importantes. Donc, je pense que la jeunesse africaine, si on renforce l'éducation, l'enseignement des sciences, des techniques et des métiers dont l'économie a besoin et qu'on ouvre l'opportunité pour les petites et moyennes entreprises d'avoir accès au financement, d'avoir accès au renforcement des capacités et d'avoir accès au marché, je pense que le continent va connaître un essor considérable qui va permettre de créer les 20 millions d'emplois dont on a besoin.
À Sidi Ould Tah, nouveau président de la BAD, qui répondait aux questions de Bruno Faure au début du mois, avant son élection, donc entretien que vous réécoutez en intégralité sur RFI.fr. Il est 5h37 à Paris. Même heure à Maputo, on en vient au nord du Mozambique où le groupe État islamique semble reprendre de la vigueur. Les terroristes revendiquent sur leurs réseaux sociaux 2 attaques menées en début de semaine où plus d'une 20aine de soldats auraient été tués. Des assauts dans la province septentrionale du Cabo Delgado, là précisément où le groupe français Total Energy veut relancer son gigantesque projet gazier de la péninsule d'Afungi. Correspondance régionale, Gaëlle Lalex.
Sur leurs réseaux sociaux, les terroristes arborent fièrement leur butin. Des mitraillettes, des mortiers, des munitions, des lampes solaires, toute une armurerie. Mardi, les djihadistes ont attaqué un campement militaire à Makomiya, à près de 200 km au nord de Pemba, capitale du Cabo Delgado. Ils revendiquent la mort d'une dizaine de soldats. Cet assaut intervient peu après l'attaque d'un avant-poste militaire à Mouidoumbe, où 11 soldats ont également péri. Les autorités mozambicaines, quant à elles, ne communiquent pas sur ces récents revers. La situation s'est nettement dégradée dans le Cabo Delgado depuis le début du mois et l'annonce par Total de la reprise de ses projets pétroliers. Les hommes armés ont mené une attaque dans la réserve de Niassa, tuant 2 rangers. 3 soldats rwandais ont également péri dans une embuscade peu après. Dans un rapport publié cette semaine, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s'inquiète de voir l'insécurité toucher des districts autrefois considérés stables. Ceux d'Ankouabé et de Montepuech ont enregistré 20 000 déplacés supplémentaires en quelques semaines. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Des photos publiées en ligne et des témoignages pour confirmer sans plus de doute possible que Joseph Kabila est bel et bien à Goma. Ville sous contrôle du M23 dans l'est de la RDC. L'ancien président a reçu hier plusieurs représentants de diverses confessions religieuses. L'entretien a duré 1 heure. Les participants disent espérer que l'ex-dirigeant s'engagera véritablement pour le retour de la paix. Le retour de Joseph Kabila et ses critiques du régime actuel suscitent toujours une vive polémique à travers la RDC. Ses détracteurs rappelant la gabegie économique sous sa présidence ou encore les nombreuses violations des droits humains. Les droits de l'homme en République démocratique du Congo encore et ses inquiétudes qu'une coalition d'ONG exprime d'une même voix. Elle s'alarme des arrestations en cascade qui touchent des hauts responsables sécuritaires, militaires particulièrement, une 30aine de hauts gradés mis aux arrêts ces derniers mois. Correspondance RFI, Pascal Moulégua.
En 6 mois, 29 généraux ont été arrêtés par les services de sécurité, principalement par les renseignements militaires selon les consortiums d'ONG. Parmi eux, 27 seraient originaires de l'Est du pays et soupçonnés d'intelligence avec l'ancien régime ou des sabotages d'opérations militaires. À cela s'ajoutent des dizaines d'autres officiers en détention préventive depuis plus de 2 ans, sans jugement. Le cas le plus récent est celui du général Pierre Bagnussizier, ancien chef de la sécurité présidentielle de l'ancien régime. Malade, il n'a pas accès à ses avocats ni à sa famille. Des ONG demandent des mesures urgentes pour éviter l'irréparable. Ces organisations alertent aussi sur les risques de torture, de mauvais traitements et des détentions prolongées sans procès. Elles appellent à des procédures judiciaires équitables ou à la libération immédiate des détenus. Dans un contexte de tensions politiques et d'insécurité croissante, les ONG réclament des signaux clairs d'unité, de justice et d'égalité devant la loi. Contactées, les autorités gouvernementales et militaires n'ont pas souhaité réagir. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
À l'actualité congolaise encore. Et la voie des poursuites judiciaires ouvertes contre Constant Mutamba. L'Assemblée nationale donne une suite favorable à la requête du procureur général qui désire poursuivre le ministre de la Justice. Il est suspecté de malversation financière autour d'un marché pour construire une prison à Kisangani, chef-lieu de la Tshopo dans le Nord-Est. Autre homme politique congolais dans le collimateur de la justice. Il s'agit cette fois du député Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. La justice souhaite l'entendre sur des accusations de propagation de faux bruits ou de divulgation de secrets d'État. En cause, une interview qu'il a donnée au début du mois de mai où il évoquait la gabegie financière. Ici encore, une commission a été mise en place. Elle devrait rendre son rapport la semaine prochaine. Aaron Boupenza doit être inhumé aujourd'hui. L'ex-international gabonais mort il y a un mois en Chine, qui a eu droit hier à une cérémonie d'hommage national. Le footballeur de 28 ans a été décoré à titre posthume de la médaille d'officier dans l'ordre du mérite. Aaron Boupenza, qui avait porté 35 fois la cape des Panthères et inscrit 8 buts en sélection, il sera porté en terre aujourd'hui, dans l'intimité, non loin du stade de l'Amitié à Libreville. Quelques mots de politique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ousmane Sonko est arrivé hier à Abidjan, visite dite de travail et d'amitié de 3 jours pour le Premier ministre sénégalais. Il a été accueilli par son homologue Robert Begré-Mambé. Les sports, on y vient. C'est la planète foot qui attend la finale de la Ligue des champions de football. PSG Inter Milan, demain soir, vous vivrez une soirée spéciale sur Radio France Internationale. Cédric De Oliveira vient d'ailleurs nous expliquer comment le service des sports couvre un tel événement. Il est avec Juliette Rangeval ce soir dans Pourquoi RFI dit ça. Rendez-vous à 19h40 en temps universel. La balle est un peu plus petite et elle est jaune. On parle tennis aussi, bien sûr, il va faire chaud. Aujourd'hui, porte d'Auteuil, on attend une 30aine de degrés sur les cours de Roland-Garros. La suite du 3e tour avec chez les hommes, notamment ce soir, Carlos Alcaraz face au Bosnien Damir Djoumouz. Chez les dames, Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, qui affronte la Serbe Olga Danilovic. Et puis, à suivre aussi sur le cours Simone Mathieu, la suite du parcours de Victoria Mboko, la Canadienne d'origine congolaise qui affronte la tête de série numéro 8, la Chinoise Qin Wenzheng. Elle se rend bien compte que le morceau va être de taille.
C'est une joueuse du top 10. C'est déjà un grand défi en soi. Elle a battu tant de grandes joueuses. C'est aussi une athlète incroyable. Je m'attends à un grand combat. Je donnerai tout face à elle. Ce sera vraiment une bataille difficile pour moi. Je n'aime pas me mettre trop la pression par rapport aux matchs qui m'attendent. La seule chose qui est sûre, c'est que ce sera un match très difficile. Évidemment, ça sera éreintant. Il faudra que je gagne mes points en tenant sur la longueur dans les échanges et en sortant mon meilleur tennis. Voilà ce à quoi je m'attends.
That's all I can really expect for now.
Sortir son meilleur tennis, Victoria Mboko au micro RFI de Babacar Diarra. Premiers échanges à 9h en temps universel. Toute l'actualité sportive ce matin, c'est avec Antoine Grenier, premier journal des sports complet. Dans une heure, pour l'heure à Paris, il est 5h44.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur rfi.fr. Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
Et 3h44 en temps universel. Afrique Matin, la suite plus en longueur d'ici au journal de 4h TU. On parle des dernières évolutions du chikungunya à La Réunion avec le réseau La Première. On parle des platinoïdes en Afrique du Sud. Ces métaux qu'on trouve dans les pots d'échappement des voitures. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait besoin de pots d'échappement. Et puis nous sommes en Tunisie pour Afrique Éco. Les parlementaires votent une loi pour limiter la sous-traitance. Les reportages long format de la rédaction. De retour au Bénin d'abord, le pays qui joue à fond la carte de la diplomatie culturelle. Il est sans doute le plus en pointe en matière de restitution des œuvres spoliées, sans doute aussi le plus avancé en matière d'exposition de ces œuvres et même d'offres culturelles en général. Au moins 3 grands musées sont en projet, entre l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, le musée pour la mémoire de l'esclavage à Ouidah, Et puis nous sommes à Porto Novo aussi ce matin, la capitale politique, où c'est le musée international du Vaudoune qui est en train de sortir de terre. Le centre entend faire venir des œuvres liées à la culture et au culte vaudoune à travers le monde. Et Pierre Firsion, envoyé spécial, a pu voir l'avancée des travaux.
À l'entrée de Porto Novo, juste après le pont, d'étranges bâtiments en forme d'alvéoles se dressent au milieu des grues. Petit à petit, les contours du musée international du Vaudoune se dessinent. Ce lieu, avec ses formes originales, a été imaginé par le cabinet d'architectes ivoiriens Kofi Diabaté.
Ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle cet indice, le calebasse, qui est un élément important en culture vaudoune, de façon large.
Alain Godonou est le chargé de mission au patrimoine et au musée du président béninois.
Mais aussi l'architecture Betamaribé, on dit vulgairement l'architecture, disons, Tata Somba.
Référence à ces habitats traditionnels du nord-ouest du Bénin. Ces bâtiments, et au-delà ce lieu unique, abriteront plusieurs salles d'exposition où seront présentées non seulement des pièces de la collection nationale béninoise, mais également des objets venus d'ailleurs.
Ici et là, nous sommes en discussion avec les partenaires, discussion parfois conclue, pour avoir des objets significatifs des cultures vaudoun, notamment des cultures vaudoun hors du continent.
Des pièces venant notamment du Brésil, de Cuba, des États-Unis seront ainsi exposées ici, avec pour objectif de montrer le vaudou dans toutes ses composantes.
Et d'arriver à dépouiller le vaudou des idées négatives qui lui sont prêtées. Le public découvrira que le vaudou est tout à fait respectable.
En ce mois de mai, le chantier bat son plein. Ce jeudi-là, des ouvriers posent de grandes plaques de terre ocre sur l'un des bâtiments. D'autres travaillent sur les fondations de la future déambulation.
Il y a une circulation qui va se faire, ça sera protégé, une sorte de canopée qui sera faite. Donc ce sont les soubassements qu'ils sont en train de faire pour tenir un peu les éléments de la canopée. Qui va faire que la promenade à l'intérieur du musée sera protégée.
Outre la construction de cette canopée, il reste encore beaucoup à faire pour aménager les 16 000 m² du site. Le calendrier pourra-t-il être alors tenu ? Alain Godonou se veut confiant.
Les gros travaux sont finis, les travaux de finition ont commencé. La muséologie, la muséographie avancent très bien. On n'est jamais à l'abri des surprises, mais je crois fermement que d'ici la fin de l'année 2025, il pourra ouvrir.
Le musée doit être inauguré en même temps que la statue du roi Toffa Ier qui trône sur la place située devant l'entrée du musée, une statue qui, elle, est déjà terminée. Pierre Firsion, de retour de Porto Novo, RFI.
Un reportage que vous réécoutez à loisir sur notre application dédiée RFI Pure Radio. Le dossier Afrique Économie, la fin de la sous-traitance dans certains secteurs professionnels en Tunisie, juste après les titres. À 3h48 en temps universel. La une de l'actualité internationale de ce 30 mai 2025 et ces combats qui ne devraient pas s'arrêter dans la bande de Gaza. Si Israël avait accepté la dernière proposition américaine de cesser le feu dans l'enclave, le Hamas de son côté la refuse, en assurant que l'accord ne répond pas aux demandes de ses dirigeants, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine organisée. Hier, la défense civile de l'enclave a annoncé la mort de 44 nouvelles personnes dans des raids israéliens. Quand un hôpital du nord du territoire assurait que les forces israéliennes avaient procédé à une évacuation forcée des patients et du personnel médical à l'intérieur de l'établissement, le seul qui soit encore en activité dans le nord de cette bande de Gaza. En Syrie, le groupe État islamique a revendiqué sa première attaque contre les forces des nouvelles autorités, la première en fait depuis la chute de l'ex-président Bachar al-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'un mort et de trois blessés au sein de la 70e division de l'armée, visée avant-hier par une mine terrestre déclenchée à distance. Aux États-Unis, ils avaient été suspendus temporairement par un tribunal spécialisé, mais les droits de douane de 10% dits réciproques ont finalement été rétablis il y a quelques heures par une cour d'appel, à la grande satisfaction du président Donald Trump, lui qui avait fustigé la décision du premier tribunal, la qualifiant, je cite, « d'horrible et de trop politique ». L'Ukraine, enfin, qui se dit favorable à de nouveaux pourparlers avec la Russie à Istanbul, Kiev qui demande toutefois à Moscou de lui transmettre un document qui détaillerait ses conditions pour une paix durable, pour pouvoir, je cite le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, engager une discussion constructive. Lui qui assure que la partie russe a de son côté reçu un texte qui détaille la position de son propre pays. Ces nouvelles négociations pourraient s'ouvrir lundi en Turquie. Et le dossier de l'économie africaine. En Tunisie donc, où le Parlement s'est mis en chasse de la sous-traitance. Les députés viennent d'adopter un projet de loi qui interdit cette sous-traitance dans de nombreux corps de métier. L'idée, c'est de traquer les abus des salariés employés à la tâche pour des contrats précaires, qui peuvent être rompus du jour au lendemain avec des droits en fait très peu respectés. Lilia Blaise, 200 000 personnes pourraient être concernées.
Mourad Saïdani, 42 ans et gardien de sécurité dans une résidence, a veillé jusqu'à 4 heures du matin le jour du vote de la loi sur la sous-traitance au Parlement. Il attend avec impatience un changement.
Vous n'imaginez pas mes conditions de travail. Ça fait un an et demi que je travaille ici pour 160 euros par mois. Je n'ai aucun jour de congé. Si je veux en prendre un, c'est prélevé de mon salaire. Je travaille 12 heures par jour. J'attendais vraiment cette loi, car je n'en peux plus de cette situation.
Il espère qu'avec la nouvelle loi, son contrat sera régularisé. Actuellement, il n'a pas de sécurité sociale. Le vide juridique et la confusion entre sociétés de prestations de services et sous-traitance ont laissé place à ce genre d'abus.
Je n'ai pas de formation ni de diplôme. Qui va embaucher quelqu'un de mon âge? La plupart des secteurs cherchent des jeunes et des saisonniers.
Avec la nouvelle loi, les CDD ou contrats précaires doivent être convertis en CDI et assurer une protection sociale. Une exception est faite pour le travail saisonnier. Mais le professeur en droit Hatem Kotran souligne un manque de clarté.
Une des difficultés est la durée maximale du CDD. Rien n'est dit dans la loi. On tolère des cas, mais on ne dit pas quel est le seuil, quelle est la durée maximale. On parle de contrat de travail conclu, la durée d'un chantier ou d'une mission. Cela a été supprimé et aujourd'hui, cela créerait beaucoup de difficultés pour nombre d'entreprises dans le secteur du bâtiment, par exemple.
Le député indépendant Zafer Zriri est l'une des voix à avoir émis des réserves lors du débat sur la loi à l'Assemblée. Il a dénoncé notamment le manque de consultation avec les partenaires sociaux et le patronat.
Avec le projet, il y a une étude d'impact et beaucoup de chiffres normalement. Ça doit être chiffré. Par exemple, le projet va impacter combien de personnes et tout ça. Ça, c'est inexistant dans le projet. C'est une grande lacune, c'est une faiblesse.
Le secteur privé a peu réagi à l'adoption de cette nouvelle loi. Le secteur public emploie, lui, 20% de travailleurs dans la sous-traitance. Le texte prévoit une amende de 3000 euros et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement en cas d'infraction. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Tunis, où il est 4h52. L'économie encore avec l'actualité des matières premières qui remet le cap plein sud, l'Afrique du Sud, où le géant mondial anglo-américain se sépare de ses mines de platine. Elles deviennent une entité autonome, Valterra, dans un contexte mondial très incertain. Ce sont surtout les platinoïdes qui font planer le doute. On en trouve beaucoup dans les pots d'échappement des voitures thermiques. Marie-Pierre Olfan, bien heureux, qui peut prédire l'avenir de ce secteur ?
La branche sud-africaine d'Anglo-American devient indépendante dans un contexte difficile pour le secteur des platinoïdes. On parle d'un groupe de 6 métaux, parmi eux notamment le palladium et le rhodium que l'on retrouve dans les pots catalytiques des voitures. Leur prix s'est envolé après la pandémie et au début de l'invasion de l'Ukraine, mais la bulle a éclaté en 2023 et depuis l'Afrique du Sud accuse le coup. Le pays est le premier producteur mondial de platine d'où l'on extrait le palladium et le rhodium notamment. Les grands groupes miniers présents dans le pays ont dû s'adapter et pour certains se restructurer et licencier du personnel. Pour ne rien arranger, des inondations ont mis à l'arrêt en début d'année la production d'une importante mine dans la province du Limpopo, mine exploitée par l'ancienne filiale d'Anglo-American. Un contexte difficile donc pour cette société devenue Valterra Platinum. Selon une note de la banque UBS, l'entreprise pourrait afficher d'ici fin juin une dette nette de 400 millions d'euros environ. Du côté de la demande en platinoïde, c'est l'incertitude qui domine. Au premier trimestre, la demande de bijoux en platine a augmenté de près d'un quart, une bonne nouvelle liée à la flambée des cours de l'or. Mais les débouchés des platinoïdes restent essentiellement liés à l'automobile. Le décollage ou non de la demande pour les véhicules électriques et la fin des pots d'échappement qui va avec sera donc déterminant pour l'avenir du platine, du rhodium et du palladium. D'autres sous-métaux du groupe tels que l'iridium pourraient en revanche, eux, trouver un nouvel élan avec le développement de la filière hydrogène, une filière sur laquelle mise l'Afrique du Sud. En l'état actuel, une troisième année de déficit s'annonce pour le marché du platine. Les disponibilités seront inférieures à la demande et comme les déficits s'enchaînent, ils font baisser les stocks et pourraient créer de la tension sur le marché. Les prix ont d'ailleurs nettement rebondi depuis la publication des prévisions 2025 par l'organisation mère qui regroupe de nombreux producteurs il y a quelques jours. Comme d'autres analystes, le PDG de Valterra Platinum table lui-même sur des perspectives de prix positives d'ici la fin de l'année.
Marie-Pierre Olfan pour l'actualité des matières premières. Merci beaucoup. Et dans 5 minutes, on retrouve Gaëtan Plenet pour le retour de l'actualité internationale sur RFI. Nous sommes d'abord avec les confrères du réseau La Première pour parler des territoires français de l'océan Indien. Le bilan augmente encore pour l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Elle a fait au moins 15 morts. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Entre le 31 mars et le 13 avril dernier, 3 nouveaux décès dus à la maladie sont en effet venus s'ajouter aux 12 déjà recensés. Triste bilan, cela va sans dire, même si les derniers chiffres publiés par Santé publique France confirment une autre réalité plus réjouissante. L'épidémie de chik est décidément en train de s'affaiblir. Lise Dumont.
Avec 3800 consultations entre le 19 et le 25 mai, pour la quatrième semaine consécutive, les indicateurs de l'épidémie de chikungunya sont en baisse. Les consultations en ville ne représentent plus que 4,3% du volume de patients reçus par les médecins. Il était de 20% au plus fort de l'épidémie. Dans les hôpitaux aussi, c'est la décrue. Le seuil le plus haut de la semaine est atteint par le GHER avec 310 patients vus aux urgences. Le bilan, par contre, s'alourdit. 3 nouveaux décès sont imputés au chikungunya. En tout, le bilan s'établit donc à 15 décès. Tous concernent des personnes de plus de 65 ans présentant d'autres maladies. 36 autres cas sont toujours soumis à une enquête. 2 d'entre eux concernent des enfants de moins de 6 mois. La décroissance de l'épidémie à La Réunion se confirme donc, mais le virus et avec lui l'obligation de s'en protéger perdurent encore.
Direction Mayotte, 4 heures de conférence à la technopole de Dembéni, pas une de moins, pour présenter les études qui ont amené les pouvoirs publics à privilégier la construction d'un nouvel aéroport sur la grande terre du département 101, en lieu et place de l'infrastructure historique située en petite terre, comme chacun sait. Présent à cette conférence, le président du comité économique et social de Mayotte, Abdou Dahalani, a livré ses réflexions au micro de Nadia Ali.
Il faudrait qu'on puisse rejoindre l'aéroport avec facilité et puis quitter l'aéroport, rentrer chez soi ou rentrer dans les zones économiques avec facilité. Ça voudrait dire qu'au-delà de l'aéroport, il faut réfléchir au maillage territorial au niveau des réseaux. J'imagine qu'il y aura certainement 2 fois 2 voies pour relier l'aéroport à Mamoudzou et ainsi que l'aéroport vers le sud de Mayotte. Ça, c'est le premier point. Donc, relier effectivement le territoire avec des moyens de déplacement rapide. Ça, c'est très important. Le deuxième volet que j'ai évoqué, c'est cet aéroport devrait donner davantage de perspectives à Mayotte dans sa relation avec la région. Ça veut dire Mayotte, de Mayotte, on va pouvoir relier le monde avec beaucoup de facilité. Ça voudrait dire aussi que l'ensemble des équipements qui permettent aux gens de venir à Mayotte ou de se projeter puissent être autour de cet aéroport. C'est pas seulement une piste et un aérogare. C'est tout un ensemble de choses, notamment de logistique qui devrait faire de cet aéroport un aéroport qui puisse être en compétition avec les aéroports de la zone.
Et puisque nous sommes à Mayotte, sachez que le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, le Maoré Tani Mohamed Swali, retrouvera son île natale vendredi et samedi après un passage par Nairobi au Kenya. Il arrivera d'ailleurs avec le secrétaire d'État aux affaires étrangères kényan afin de renforcer la coopération régionale. Pour rappel, Mayotte et le Kenya ont signé le 25 novembre dernier une convention mettant notamment en place le projet Daraya, ou le pont en Swahili, pour renforcer les partenariats dans les secteurs de l'économie bleue, l'agroalimentaire, le numérique et le tourisme. Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
Bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand. Bonne journée à tous les collègues de La Première. Afrique Matin, c'est aussi la fin de cette première édition sur la Radio du Monde avec Laurent Hérault en régie, Nemo Ampis à la rédaction en chef. Merci messieurs. Merci à vous aussi qui nous écoutez, qui nous écrivez. Bonjour ce matin à Archiduc Théodore Nojidbay. Vous nous avez écrit depuis N'Djamena au Tchad. Vous nous écoutez régulièrement sur votre transistor, sur notre fréquence dans la capitale tchadienne, le 100.2. Une seule adresse pour nous écrire, Afrique Matin, en un seul mot, @rfi.fr. On vous lit et on vous répond. Vous restez bien avec nous, dans 30 secondes, c'est le retour du journal.
Vivez sur RFI, la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
C'est le grand soir, la finale de la plus belle des compétitions de club. Le PSG de Luis Enrique défie l'Inter Milan pour enfin écrire son nom au palmarès de la Ligue des Champions. Soirée spéciale sur RFI avec toute l'équipe du service des sports, des consultants, des envoyés spéciaux à Milan, à Paris et à Munich, lieu de cette finale. PSG Inter Milan, c'est à vivre ce samedi sur RFI à partir de 19h, temps universel.